Peut-être que vous avez une Bible qui est une traduction Louis II, pour la plupart. Il y a d'autres versions qui sont plus, on va dire, récentes, avec un langage un peu plus moderne. Et j'ai choisi, non pas une traduction précisément, mais une transcription, qui est le travail de M. Kuen, qui est reconnu pour être fidèle, bien évidemment, au texte. C'est plutôt une paraphrase. Donc, j'ai choisi de vous le lire dans ce livre-là, dans ce texte-là. Mais vous pouvez suivre avec ce que vous avez sous vos yeux dans vos Bibles. C'est exactement, évidemment, la même chose. Donc, Romains, chapitre 4, verset 18. Je me suis intéressé à cette traduction, surtout par rapport au début de la phrase. « Espérant contre toute espérance ». C'est comme ça que le texte commence. Il est parlé d'Abraham. Et là, je lis, « Là où toute espérance paraissait insensée, il a espéré et s'est cramponné avec foi à cette promesse. Nombreuse sera ta descendance. Ainsi, il est devenu le père d'une multitude de peuples. Naturellement, il savait qu'étant presque centenaire, son corps n'avait plus le pouvoir de procréer. Il savait aussi que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Mais toutes ces considérations ne l'ont pas fait vaciller dans sa foi. S'appuyant sur la promesse divine, il ne succomba pas au doute. Puisant sa force dans la foi, il fit honneur à Dieu, étant pleinement persuadé que Dieu est capable de tenir parole et d'accomplir ce qu'il a promis. C'est précisément cette attitude qui lui attira la bienveillance divine. Cette foi lui fut créditée comme justice et lui valut d'être déclaré juste. Amen. Vous avez vu, c'est la même chose avec des verbes que l'on utilise un peu plus aujourd'hui et puis une espèce d'insistance. Bien évidemment, je peux revenir juste sur deux, trois expressions. Là où toute espérance paraissait insensée, eh bien lui, il s'est cramponné avec foi. Un peu plus loin, ses considérations n'ont pas fait vaciller sa foi et il n'a pas succombé au doute. Un peu plus loin, dans l'Épître aux Hébreux, je vous cite, ça rappelle la même histoire, au chapitre 6 et au verset 15. « C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. » Amen. Ayant persévéré, Abraham obtint l'effet de la promesse. Alors, je reviens au texte que vous avez vous sous les yeux, qui correspond à ce que j'ai inscrit au tableau. Vous en conviendrez, l'histoire du couple Abraham et Sarah est édifiante, pour ne pas dire très encourageante, et il y a plusieurs rapports dans le Nouveau Testament les concernant, plusieurs faits qui rappellent leur histoire. Vous en avez dans le livre des Actes, vous en avez dans cette lettre aux Romains, vous en avez dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux notamment. Et à chaque fois que l'on parlera de leur histoire, de leur parcours, vous verrez dans le Nouveau Testament que tous les rapports sont positifs, tous. Aucun point négatif, tous absolument positifs. Et excusez du peu, c'est quand même pas rien, hein. C'est quand même pas rien. Moi, j'aimerais bien qu'on dise ça de moi. Non ? Espérant contre toute espérance, Stéphane a cru. Ben oui. Moi, j'aimerais bien. Stéphane n'a jamais faibli dans la foi. Waouh ! Il ne douta pas. Par incrédulité. Il n'est pas incrédule, Stéphane. Il a même été fortifié dans la foi. Il a toujours donné gloire à Dieu. Parce qu'il avait une pleine conviction. Il a persévéré, et c'est logique. Stéphane a obtenu l'effet de la promesse. Vous n'avez pas envie qu'on dise ça de vous ? Moi, j'aimerais bien qu'on dise ça de moi. Mais parce que je me connais, je sais que ce n'est pas vrai. Eh oui, parce que je me connais, je sais que ce n'est pas aussi simple que ça. Parce que je me connais, je sais que ce n'est pas la réalité. Et pourtant, le rapport est parfait. Alors, ce qui est assez surprenant, c'est que la Bible, c'est un miroir, non ? On dit souvent ça. C'est un miroir. Ça veut dire que tous ceux qui ont été contrariés parce que dans la Bible, il y a des guerres, il y a des histoires de guerres, etc., ils sont un peu gênés par ça en disant « mais je ne comprends pas, vous parlez d'un Dieu d'amour et on parle de révolte, on parle de rébellion, on parle de la justice de Dieu qui en a tué des milliers, où est l'amour dans tout ça ?» Mais c'est un reflet, ça reflète la bonté de Dieu et ça reflète le caractère de l'homme. Et Dieu n'a jamais fait de passe-droit, Dieu n'a jamais été, on va dire, en deçà de la réalité. Et à chaque fois que Dieu a parlé de quelqu'un, il en a parlé avec vérité, très justement. Il n'est pas, il n'a pas passé sous silence. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait toujours, nous. C'est ce qu'on fait toujours. D'ailleurs, on sait très bien que les gens sont les pires que l'on a jamais connus jusqu'à ce qu'ils meurent. Et quand ils meurent, l'oraison funèbre est toujours belle. C'est rare quand même de trouver dans un édifice religieux quelqu'un qui va prendre la parole en disant « je veux vous dire, c'était une crapule, un bon à rien, elle valait rien, etc. » Ce n'est pas l'endroit. Beaucoup diront « ce n'est pas l'endroit ». Non, à cet endroit-là, c'est l'éloge qui est apporté. Alors, beaucoup de bonnes choses. Alors, c'est vrai, ils ont été extraordinaires, Abraham et Sarah. Pourtant, ce n'est pas réaliste. Tous les rapports du Nouveau Testament ne sont pas réalistes. Ça me gêne un peu de dire ça. Parce que c'est la parole de Dieu. Si Dieu a voulu que ce soit écrit comme ça, on ne peut pas s'y opposer. Mais vous allez voir que quand même, Dieu est un Dieu extraordinaire. Parce qu'à bien y regarder, oui, il a douté. Et pas qu'une fois. Hein. On va y revenir ensemble. Oui, il a failli dans la foi. Il a perdu pied. Et il a chuté plusieurs fois. Lui comme sa femme, tous les deux. Hein. Ils ont commis énormément d'erreurs. Ça, c'est certain. Et quelque part, ils sont comme nous, finalement. C'est peut-être ce qui peut nous rassurer d'un côté, parce que nous aussi, on fait des erreurs. Et nous aussi, on manque de foi. Et nous aussi, on vacille. Et nous aussi, on chute. Et combien de fois on s'est plaint, on a objecté, on n'a pas compris, on s'est un petit peu contrarié. C'est pas pour ça. C'est pour ça, pardon, que Dieu a permis que tout à l'heure, il nous rappelle qu'on ne sait pas toujours quand, on ne sait pas toujours comment, mais on sait que Dieu exauce toujours. Et on a besoin de s'en souvenir. On a besoin de s'en souvenir. Alors, Dieu le sait qu'ils ont commis des erreurs. Non, à votre avis, il le sait. D'ailleurs, c'est le même Dieu qui a inspiré ceux qui ont écrit la Genèse. Celui qui a écrit la Genèse. C'est le même Dieu qui a inspiré Paul, qui a inspiré Luc, qui a inspiré également cet auteur aux Hébreux. C'est le même Dieu. Alors, pourquoi dans l'Ancien Testament, on parle du bon et du moins bon, et pourquoi dans le Nouveau, il n'y a plus que le bon ? Je préfère être dans le nouveau que dans l'ancien, finalement. Il n'y a plus que le bon. Ça nous rappellera, et on terminera avec cela tout à l'heure, ça nous rappellera que Dieu est toujours prêt à pardonner nos erreurs. Dieu est toujours prêt à oublier nos erreurs. Ce que nous, des fois, on a du mal à faire, il faut l'avouer. Mais ce qui compte, c'est la fin d'une chose. Alors, la vérité qui demeurera, parce qu'Abraham et Sarah, ils avaient la foi, hein. Parce que on va mesurer le propos. Même quand il a douté, même quand il a chuté, même quand il a fait des erreurs, il avait toujours la foi. C'était pas, il n'était pas devenu païen un quart d'heure pour redevenir croyant la demi-heure qui suivait. Non, il était toujours croyant, sans aucun doute. Mais l'épreuve était telle qu'il était submergé et qu'à nouveau la nature humaine prenait le dessus. Et il a glissé, il a dérapé, mais il n'avait pas envie de glisser, il n'avait pas envie de tomber. Il avait la foi. Sauf qu'il a été éprouvé. La vérité qui demeure et qui demeurera toujours, c'est le plan de Dieu. Ce qui doit primer quand les gens se souviendront ou se souviennent de notre parcours, c'est quel était le plan de Dieu. Et là, on peut dire qu'Abraham a accompli le plan de Dieu. À partir du jour où il l'a appelé, il avait 75 ans, jusqu'à sa fin, il a fait le plan de Dieu, bien évidemment. La promesse qui, de toute manière, s'est accomplie, a émané de Dieu. Dieu avait fait des promesses, elles se sont accomplies. Ça a mis du temps. Malheureusement, ça a mis du temps. Mais elles se sont accomplies. Et puis, le témoignage qui restera, de toute façon, parlera des miracles de Dieu. C'est peut-être là qu'on y trouve une réponse et une compréhension de ces textes du Nouveau Testament. Espérant contre toute espérance, il crut, sans faiblir dans la foi, il ne douta pas, il fut fortifié, il avait la pleine conviction et il a obtenu l'effet de la promesse. Ça, c'est miraculeux que l'histoire se termine comme cela et que ça se soit achevé de cette manière-là. Alors, comment ça s'est passé, un petit peu son parcours, et comment Dieu a vu les choses? On comprend qu'Abraham a quand même cherché l'approbation de Dieu. Alors, on va aller sur le parcours du couple Abraham et Sarah, et on va aller dans l'Ancien Testament, on va aller dans le livre de la Genèse, si vous voulez bien. Genèse, ça commence au chapitre 12. On ne va pas lire tous ces passages, mais je vous inviterai à parcourir cela, on va dire du chapitre 12 jusqu'au chapitre 25. Vous aurez déjà une bonne idée de ce qu'a été le parcours de ce couple. On lit quand même les premiers versets de Genèse, chapitre 12. « L'Éternel dit à Abraham, à l'époque il s'appelait Abraham, il deviendra Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. » Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il partit de Charan. C'est à 75 ans, donc, que la vie d'Abraham va changer radicalement, vraiment radicalement. Il entend et il comprend ce que Dieu lui demande. Des fois, on a entendu Dieu nous parler, on n'a pas forcément compris l'appel de Dieu, lui, il a tout compris. Il a compris, et puis il croit, et il s'engage sans regret. À vrai dire, je ne sais pas si on aurait été capable de faire une telle chose, pars de là où tu vis, dans un pays que je te montrerai, tu n'as pas d'autre indication, tu pars. Il fallait être drôlement courageux pour le faire. Mais face à un tel appel, je pense qu'on aurait tous dit oui quand même. Parce que je vous rappelle que Dieu dit à Abraham, et ça c'est le temps des promesses, c'est la première partie si vous voulez, le temps des promesses. Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction, je te protégerai. Ben, on dit tous oui là, hein? Non ? Je vais te bénir, ça va être extraordinaire, ta vie va être fabuleuse, tu n'as qu'à m'écouter, tu n'as qu'à me suivre. Est-ce que tu es d'accord ? On aurait tous dit oui. À vrai dire, on aurait tous dit oui, parce que le projet est fantastique, le projet est quand même assez fabuleux. Le fait est que Dieu va apparaître à Abraham plusieurs fois, il en avait besoin d'ailleurs. Moi j'aime cette idée que l'on trouve dans le Deutéronome, où Dieu dit à l'enfant de Dieu, au croyant, qu'il sera avec nous, et dans le Deutéronome au chapitre 28, il est dit ceci au verset 13, « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue, tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. » De manière imagée, on comprend ce que ça signifie. Ça fait du bien d'être tout en haut. On n'aime pas être tout en bas. Et on préfère être devant que derrière. On préfère être meneur que suiveur. Et Abraham est appelé à ça. Il sera comme cela. Il sera leader, c'est lui qui conduira. Et une porte va s'ouvrir pour le monde entier grâce à Abraham et à Sarah. Alors, Dieu va lui parler plusieurs fois, du verset 6 au verset 9, du chapitre 12, Abraham parcourut le pays, et l'Éternel apparut à Abraham. Au verset 10, il y eut une famine, il veut s'en aller vers l'Égypte, et Dieu lui parle. Voici ce qui va se passer. Chapitre 13, verset 13, on est encore dans du chapitre 12, verset 10, au chapitre 13, verset 13. Il va y avoir des choix que Abraham va faire et Dieu ne cessera de l'encourager et de le bénir et de lui parler. Je voudrais vous faire remarquer que malgré tout, dès le début de l'histoire, Dieu encourage Abraham à lui faire confiance, mais Abraham est maître de ses choix. Il y va, il n'y va pas. Il décide d'y aller, d'aller à gauche, d'aller à droite. Et vous avez sa descente en Égypte, qui était conditionnelle, il aurait pu ne pas y aller. Vous avez la séparation avec Lot, quand il dit à Lot, tu vas à droite, je vais à gauche, tu vas dans la plaine, je vais dans la montagne. Bref, il a toujours été maître de ses choix. J'aime quand même cette idée que Dieu est notre maître, Seigneur, mais qu'il nous laisse quand même la possibilité de choisir. Ça, c'est extraordinaire. C'est peut-être d'ailleurs la part la plus difficile. Parce que s'il choisissait pour nous, ce serait mieux. Eh oui, ce serait mieux. Sauf qu'il nous laisse choisir aussi. C'est le test de la foi, finalement. Il nous laisse choisir. Mais quand il y a des moments où peut-être ce serait difficile à encaisser. Vous savez, quand Lot a choisi la plaine et qu'il a laissé à Abraham les cailloux et la montagne, je ne suis pas sûr qu'Abraham ait apprécié le geste. Mais Dieu vient lui parler à ce moment-là. Il lui dit, Abraham, lève les yeux, regarde. Tout ce que tu vois devant toi, derrière toi, à gauche, à droite, tout ça, ce sera pour toi et ta postérité. C'est incroyable comme Dieu sait parler au bon moment. Vraiment au bon moment. Et puis, vous verrez que Abraham va établir une vraie relation avec Dieu. Au chapitre 12, verset 7, au verset 8, au chapitre 13, verset 4, au verset 18, à chaque fois qu'il y a eu des moments particuliers, il nous est dit qu'Abraham a bâti un autel à l'Éternel. Vous voyez ? C'est-à-dire que dans les grandes bénédictions, dans les grands choix, dans les grandes directions, quand il a vu que, même si c'était imperceptible à l'œil, mais il a senti que Dieu était avec lui, alors il s'est arrêté et il a pris du temps avec Dieu. Il a pris du temps pour bénir Dieu. Je pense que tous les jours, on peut prendre un peu de temps pour bénir Dieu, sinon pas mal de temps pour bénir Dieu. Mais Dieu va le conduire d'expérience en expérience à une rencontre extraordinaire. Vous savez qu'au chapitre 13, il va y avoir un conflit, une guerre, et Abraham va partir avec 118 de ses braves serviteurs pour aller récupérer Lot qui a été kidnappé, ainsi que sa famille, récupérer les biens qui lui appartenaient. Et puis la paix va s'installer dans la région, et il nous est dit que des rois vont venir à sa rencontre, et puis un homme, un roi. On ne sait pas qui il est, on ne sait pas d'où il vient. Il est exceptionnel, celui-là. Il s'appelle Melchisédek, roi de Salem. Il vient vers lui, et ensemble, ils vont partager, curieusement, par anticipation, une forme de scène. Il va partager le pain et le vin avec Abraham. Et Abraham va lui donner la dîme de tout, une expérience totalement unique, que vous ne retrouvez que dans l'Épître aux Hébreux, quand il y a une explication qui est faite, pour expliquer que Melchisédek était une figure de Jésus-Christ qui allait venir et donner sa vie à la croix. Et quelque part, Abraham a eu cette révélation extraordinaire de ce qui se produirait plus tard, de la manière dont Dieu sauverait l'humanité, de la manière dont Dieu sauverait les hommes. Et cette rencontre, évidemment, pouvait le marquer. Et d'une certaine manière, j'ai envie de dire que dans ce temps des promesses, Dieu a toujours été fidèle à ses promesses. Maintenant, j'ai noté à l'écran, le parcours du couple, c'est la vision à l'épreuve de la vue, sans vouloir faire spécialement un jeu de mots. Mais la vision, c'est comment Dieu voit les choses. Et la vue, c'est comment moi je les interprète. La vision, c'est ce que Dieu a mis devant moi. Et la vue, c'est ce que je vois au quotidien. Et là, il y a un décalage. C'est là où on trouve le décalage dans le parcours de ce couple-là. Parce que jusqu'à présent, ça n'a été que, on va dire, une suite de promesses. Mais à un moment donné, dites-moi, on a bien envie que les promesses deviennent une réalité. On ne vit pas que dans des promesses. À un moment donné, il faut toucher du doigt. Vous êtes d'accord avec moi? À un moment donné, il faut que la promesse s'accomplisse. Parce que si on était chrétien, et si toute notre vie n'était basée que sur des promesses que l'on ne vivrait jamais de toute manière et ça nous tiendra la tête hors de l'eau toute notre vie, on serait bien malheureux, on serait bien triste. Heureusement que non pas une fois, même pas 10. Heureusement que des dizaines de fois, Dieu a accompli ses promesses pour nous. C'est ce qui a fortifié notre foi. C'est ce qui nous a donné de l'assurance. C'est ce qui nous a permis de croire. Et là, on va entrer dans une deuxième phase très intéressante. À partir du chapitre 15, maintenant, c'est ce que j'ai appelé le temps des réalisations. Il y a le temps des promesses, et puis il y a le temps des réalisations. Depuis le début, Dieu a dit à Abraham, dès le chapitre 12, « Je ferai de toi une grande nation ». Il a 75 ans. Depuis le début, Dieu lui dit « Tu seras père d'un grand nombre de peuples », etc. Ça sous-entend qu'il faut bien qu'il ait des enfants. Sauf que jusqu'à maintenant, ils n'en ont pas eu. avec sa femme, ils sont mariés depuis bien longtemps, mais ils n'ont pas eu d'enfants. Et ce n'est pas l'âge avançant qu'ils s'imaginent avoir des enfants. Et au chapitre 15, quand Dieu vient à nouveau rapporter ses promesses à Abraham, en lui disant « Ne crains pas, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande », pour la première fois, ouvertement, Abraham conteste. Oui, il a douté. On en a un exemple là. Oui, il a douté. Il conteste. Parce que qu'est-ce qu'il dit au verset 2 ? « Seigneur éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Et Abraham dit « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Ah, ça change. Ça fait longtemps que Dieu lui dit « Tu vas avoir des enfants, au moins, tu vas avoir une postérité, tu seras le père d'une multitude de peuples, de nations. » Abraham ne dit rien. Ça ne veut pas dire qu'il ne pense rien, hein. Mais il dit rien, c'est surprenant. Sauf qu'à un moment donné, il fallait bien que ça sorte, et ça sort. Et là, il se plaint, et là, il ne comprend pas. Il est très honnête, hein, il ne comprend pas. « Je m'en vais sans enfant, que me donneras-tu ? » Pas évident. Hein. Et à partir de là, plusieurs fois, Dieu va revenir et va parler à Abraham en lui disant « Je t'ai fait la promesse, tu auras un enfant, je te dis, tu auras un enfant. » Et là, c'est vraiment l'épreuve de la foi, ou que c'est compliqué l'épreuve de la foi. Au chapitre 16, Sarah, qui a bien entendu cette histoire plus d'une fois, elle n'a pas d'enfant, toujours pas d'enfant. Et elle peut se dire, bon, maintenant c'est cuit, alors peut-être qu'il faut interpréter, il faut comprendre. J'ai peut-être un moyen d'avoir des enfants. À l'époque, on n'adoptait pas. Par contre, il y avait la GPA, gestation pour autrui. Donc il s'est dit, je vais donner ma servante Agar à mon mari, il va coucher avec elle, donc ça deviendra une concubine, hein, une femme, une concubine. Il va coucher avec elle, peut-être qu'elle, elle peut avoir des enfants, et ainsi, je récupère l'enfant et j'aurai un enfant. Quand Dieu dit, tu auras un enfant, l'interpréter pour faire comme ça, c'est un peu tiré par les cheveux quand même. Sauf que, ben, peut-être qu'ils craquent, hein, ils n'en peuvent plus. Ça fait si longtemps que ça dure. Entre parenthèses, c'est exactement ce qui va se passer, puisque Agar, elle va tomber enceinte, et elle va donner naissance à un enfant, le fameux Ismaël. Et quand on y regarde bien, Ismaël naît, du jour où Dieu a appelé Abraham à 75 ans, jusqu'à ce jour-là, il s'est passé 11 ans. Il a 86 ans. Il s'est passé 11 ans. Ça n'a pas été forcément le choix le plus judicieux, mais il ne s'est pas passé 3 semaines, il ne s'est pas passé 2 mois, il ne s'est pas passé 6 mois. 11 ans, c'est long, hein, c'est long, bien évidemment. Donc on peut imaginer que la vue a remplacé la vision, finalement. La vue a remplacé la vision. Dans la première épître de Pierre, au chapitre 1er, concernant l'épreuve de la foi, au verset 7, toujours M. Kuhn a écrit de cette manière-là, « L'épreuve de la foi produit la patience. Les épreuves éprouvent la réalité de votre foi et en augmentent la valeur. » Je répète, les épreuves éprouvent la réalité de votre foi et elles en augmentent la valeur. En fait, dès que Agar va être enceinte, il va y avoir un problème. Parce qu'elle, elle se voit enceinte, tandis que sa maîtresse, sa patronne, Sarah, elle n'est pas enceinte. Alors elle la toise un peu, elle la regarde de haut, l'autre s'imagine tout un tas de choses. Bref, ça va mal se passer, il va y avoir des disputes, il va y avoir des conflits. Finalement, cette servante va s'enfuir, Dieu va l'obliger de revenir. Quelques temps plus tard, l'enfant va naître. Quelques années plus tard encore, il va une nouvelle fois y avoir un conflit. Et vous savez comment ça va se terminer ? Abraham va devoir chasser cette femme avec son fils. En fait, ce n'était pas ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu est parfait. Et là, il y a pas mal d'imperfections. Hein. Le plan de Dieu est juste. Le plan de Dieu est bon. Et là, ça coince quand même en pas mal d'endroits. Ce n'est pas ce que Dieu avait prévu. Alors, comment Abraham Je me pose la question, comment Abraham a-t-il pu vaciller ainsi? Et comment Sarah a-t-elle pu se moquer ainsi des promesses de Dieu? Et je me pose la question, à quel moment ils se sont trompés? Quand Sarah a dit à son mari, écoute, j'ai pas d'enfant, tu me dis que Dieu a fait la promesse, alors je te donne ma servante et on aura un fils, on aura un enfant. Abraham aurait pu dire, attends, pourquoi tu dis ça? On va prier, on va chercher la face de Dieu, on va essayer de savoir si c'est vraiment ça le plan de Dieu. À quel moment il a craqué? À quel moment il a vacillé? Et quand Paul dit, espérant contre toute espérance, il crut sans jamais faiblir dans la foi, il ne douta point, il fut fortifié ayant une pleine conviction, ben vous voyez que ça n'a pas été le cas. Non, il a vacillé. Hein. Ils ont vacillé tous les deux. Il me semble que d'une certaine manière, ça a été le combat entre la raison et la foi. Le combat entre la raison et la foi. Un combat qui va durer 25 ans. Parce que finalement, alors que le jeune Ismaël a grandi, il est adolescent, et nous est dit que cette fois-ci, il est pré-ado, cette fois-ci, Sarah va devenir enceinte, 90 ans, et lui, il avait 99 ans. À 100 ans, Abraham va avoir enfin un fils. 25 ans de bataille, 75 ans, 100 ans, pour voir la réalisation de la promesse, et 25 ans de bataille entre la raison et la foi, une lutte intérieure qui est arrivée à ce que l'on a vu. Alors, le jour où ils ont décidé que c'était maintenant qu'il fallait voir la promesse de se réaliser, quitte à se débrouiller tout seul, c'est là qu'ils se sont trompés. Le jour où Sarah a dit « maintenant stop, j'attends pas une semaine de plus, j'en ai marre », on fait comme ça. C'est là où ça a foiré. C'est là où, évidemment, ce n'était pas comme ça que Dieu voyait les choses. Le temps des réalisations, il appartient à Dieu aussi. Alors, bien-aimés, ayons de la prudence, pas de précipitation. Dans le livre, d'ailleurs, des Proverbes, au chapitre 21, et au verset 5, il est dit « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette ». Alors on comprend que le parcours est difficile, sauf qu'au chapitre 21, c'est la réalisation de la promesse, ça y est, Isaac est né. Formidable, hein ? Vous savez pourquoi Isaac porte ce nom-là ? Savez-vous ? Savez-vous ce que ça veut dire, Isaac ? Rire. Rire. Et la maman a dit, je rirai, on rira de moi. J'ai eu un enfant à cet âge-là. C'est peut-être pas que pour ça. Parce que quand les anges viendront, juste avant la destruction de Sodome et Gomorre, quand les anges viendront discuter avec Abraham une fois de plus, il nous est dit que Abraham tomba sur sa face et rit. Et il dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans ? Un peu plus loin, au chapitre 18, il nous est dit qu'Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir d'enfant, alors elle rit en elle-même. Vous comprenez que c'est un rire désabusé, moqueur. Ce n'était pas un rire de joie, l'air de dire, ouais, 100 ans, on va avoir un enfant, alors qu'on n'en a jamais eu jusqu'à maintenant. Mais si Dieu fait la promesse, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de ma part, dit Dieu. Bien-aimé, y a-t-il quelque chose qui serait étonnant de la part de Dieu? Il peut tout faire. Il peut tout faire. Alors l'enfant est arrivé, il s'appelle Isaac. C'est l'enfant qui les a bien fait rire, mais pas toujours. En tous les cas, là, ils sont heureux. Ils ont un enfant. Et puis, on peut se dire que c'est la chose la plus extraordinaire. Et puis, à un moment donné, il faudra bien que la vision l'emporte sur la vue. Parce que jusqu'à présent, il a marché par la vision, il a marché par la foi, mais il a été entravé, et de par sa faute, par la vue. Mais maintenant, il a les deux sous les yeux. Il a Ismaël, l'enfant de la chair, et il a Isaac, l'enfant de l'esprit. Il a Ismaël, l'enfant qu'il a voulu lui, qu'ils ont voulu eux-mêmes. Je marche par la vue, et ils ont Isaac. Je marche par la foi. À un moment donné, il faut qu'il y ait une séparation entre les deux. Ah, c'est difficile de marcher par la foi et d'arrêter de marcher par la vue, je vous le concède. C'est très difficile. D'ailleurs, tous les jours, on est rattrapé par ce qu'on voit, plutôt que par ce qu'on espère. Et il faut que la chose s'inverse. C'est franchement pas évident, c'est vrai. Peut-être faut-il qu'une chose meure au profit de l'autre. Alors, on n'a pas exactement le détail, la circonstance, mais on pourrait imaginer, c'est une supposition, on pourrait imaginer dans quelles circonstances a été voulu le sacrifice d'Isaac. Vous arrivez au chapitre 22, il arrive un événement que vous ne pouvez pas imaginer. Vous avez espéré une promesse, Dieu vous l'accorde, enfin l'enfant naît, l'enfant est sevré. C'est à ce moment-là qu'il y a une dispute entre Agar, Ismaël, Sarah, et donc il est obligé de faire partir son fils Ismaël. Et il n'y a plus qu'Isaac à la maison, on se retrouve avec un fils unique, finalement, avec un seul. Et quelque part, on a envie de dire, celui-là, il faut le protéger, il n'est pas en porcelaine, mais on va en prendre soin. On a eu tellement de mal à l'avoir, quelque part, ils n'ont pas eu de mal à l'avoir, c'est Dieu qui leur a donné. Eh oui, si c'était eux, ils ne seraient jamais arrivés. C'est Dieu qui l'a donné. Mais c'est quand même le leur. Alors Dieu va interpeller Abraham, chapitre 22. C'est là qu'est le tournant de l'histoire. Et c'est là que peut se trouver notre tournant dans notre vie. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et il lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique. Abraham aurait pu dire, désolé, j'en ai deux. Non, non, de toi et de Sarah, il n'y en a qu'un. L'unique, celui de la promesse, c'est lui. Prends ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en sacrifice sur l'une des montagnes que je te dirai. Frères et sœurs, Dieu vous dit un truc comme ça, vous devenez fou. Vous devenez fou. Tout à l'heure, on a chanté au début du culte, et on le chante curieusement, assez facilement. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris, c'est ça, hein ? Que ton nom soit béni. J'avais envie de chanter autre chose. J'ai failli me lever et te faire arrêter le chant pour qu'on chante autre chose, puis je me suis dit non, ça ne se fait pas. Quand même. Vous savez ce que je voulais qu'on chante ? Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu peux reprendre. Parce que la vérité, c'est ça. Seigneur, tu peux reprendre. Et quand je réalise qu'il peut reprendre, parce que tu as repris, bon, hop, c'est fait, mais ce que j'ai là, maintenant, là, ça, c'est concret. Seigneur, tu peux reprendre. Est-ce que je suis capable de dire que ton nom soit béni ? Est-ce que je suis encore capable de dire que ton nom soit béni ? Je me mets à la place d'Abraham. Seigneur, tu m'as donné, tu me dis que tu veux me reprendre. Il y a un problème, là. C'est pas possible. Et Abraham va se lever de bon matin, et il va accepter la volonté de Dieu. Waouh ! Il va accepter la volonté de Dieu. Ils vont partir à plusieurs, ils sont quatre, avec deux serviteurs en direction du Morija, le mont Morija d'ailleurs, une colline de Jérusalem. Et ouais, et pas n'importe laquelle, le mont Morija. Sur cette colline, il commence à gravir et il a laissé les serviteurs en bas. Il veut peut-être pas. Il veut que ce soit un rendez-vous intime entre lui et Dieu et entre lui et son fils. Imaginez un élément extérieur aurait pu faire capoter l'histoire, hein, quand même. Donc il ne faut pas. Donc il y va seul. Et en montant, voilà que son fils lui dit, « Papa, on a le bois, on a le couteau, mais on n'a pas l'agneau, on n'a pas l'animal que l'on va sacrifier. » Il savait qu'on allait là-bas offrir un sacrifice à Dieu. Et là, vous êtes le papa, vous entendez ça, vous savez que le sacrifié, c'est lui. Vous savez que l'agneau, c'est lui. Vous savez que celui qu'on va égorger, c'est lui. Et lui, votre fils, vous dit, mais il est où l'animal ? Qu'est-ce que vous lui dites, là ? Quelle parole de foi ! L'Épître aux Hébreux le rappelle, quelle parole de foi ! Il dira, écoute, fils, Dieu se pourvoira lui-même. Dieu se pourvoira lui-même. Il fallait être sacré. Là, il ne douta pas. Hein. Là, il a eu la foi. Ouais. Il va retrouver son fils par une sorte de résurrection. Là, il avait la foi. Mais jusqu'à maintenant, ça a été compliqué. Et finalement, ils sont arrivés là-haut et Isaac va vite comprendre qu'il y a un problème, c'est que c'est lui le sacrifice. Son père va le lier, va le ligoter, va le mettre sur l'espèce d'autel. Il va lever le couteau, il est prêt à l'égorger. Et au moment où il va planter le couteau dans le corps de son fils, Dieu lui parle. Et Dieu arrête sa main. C'est extraordinaire ce que Dieu lui dit à ce moment-là. Il lie à son fils... Isaac le mit sur l'autel par-dessus le bois. Il étendit la main, prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel, c'est Christ, l'appela des cieux et dit « Abraham, Abraham ». Il répondit « Me voici ». L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. » Je sais maintenant que tu crains Dieu. Il y a eu beaucoup d'hypothèses sur l'âge d'Isaac à ce moment-là. Alors on a une fourchette, on ne peut pas être sûr. On a une fourchette, mais on pense qu'il avait entre 15 et 25 ans. Ce n'est pas un petit enfant, hein. Entre 15 et 25 ans. Je me suis amusé à faire un parallèle. Abraham a été appelé à 75 ans. Il a son fils à 100 ans, ça fait 25 ans. Il peut le sacrifier aux alentours de ses 15 ans, ça fait 40 ans. Alors c'est très simple ce que je vous dis, et prenez pas ça de façon littérale, on ne sait pas quel âge il avait. Mais ce chiffre 40 m'a sauté aux yeux, parce que dans l'Écriture, c'est un chiffre qui revient souvent, 40, ça revient souvent. Vous avez, par exemple, j'en ai noté quelques-uns, 40 ans, c'est les 40 ans que Moïse a passé d'abord en Égypte, puis dans le désert, puis à conduire le peuple, 120 ans. Lui, ça a été trois périodes de 40 ans. 40 ans, c'est les années qu'ont passé le peuple incrédule dans le désert, et c'est une nouvelle génération qui est entrée dans la terre promise. 40 ans, c'est notamment les 40 ans du règne de David, comme si c'était un accomplissement, comme celui de Salomon d'ailleurs. Ils vont régner 40 ans, tous les deux. Très spécial, hein, pas 39, pas 41. Et puis 40, c'est autre chose, c'est les 40 jours du déluge. C'est les 40 jours où Jonas va traverser la ville de Ninive en disant encore 40 jours et la ville sera détruite. C'est les 40 jours du désert pour Jésus, quand il va être tenté par l'Esprit dans le désert, amené par l'Esprit dans le désert et tenté par le diable pendant 40 jours. Et puis, vous vous souviendrez que 40 jours, c'est la marche du renouveau pour le prophète Élie qui est complètement découragé suite au mont Carmel et au sacrifice des faux prophètes. Il va s'enfuir devant Jézabel et il va demander la mort à l'ombre d'un petit arbrisseau et Dieu va l'interpeller en lui disant « Va au Horeb ». Et la Bible dit qu'il va marcher 40 jours. J'aurais pu vous parler des 40 jours de Moïse quand il va recevoir la loi de la part de Dieu. Bref, 40. Et beaucoup ont interprété ce chiffre 40 comme une période, le façonnement de quelque chose. C'est le remplacement d'une période par une autre. C'est comme si, après 40 jours, 40 ans, une nouvelle période allait démarrer. Quelque chose de neuf allait se déclencher à partir de ce moment-là. Et il me semble y trouver une réalité derrière le parcours d'Abraham et Sarah. Parce qu'à partir de ce moment-là, l'avenir sera différent. Bon, évidemment, Ismaël est parti de son côté avec la bénédiction de son père et le secours de Dieu. Et puis Isaac est devenu le père d'une grande nation et le père d'une multitude de peuples aussi, puisqu'il a eu des enfants et ça a continué comme cela. 40 ans, c'est peut-être le temps qu'il fallut pour Abraham afin d'être au rendez-vous. C'est là que Dieu voulait l'amener. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Souvent, la crainte de Dieu dans la Bible, ce n'est pas la peur, hein. C'est le respect. C'est la confiance, c'est la soumission, c'est l'obéissance, c'est ça, la crainte de Dieu. Il a fallu tout ce temps-là pour qu'Abraham y arrive. Et à partir de ce moment-là, on ne voit plus de doute, on ne voit plus d'erreur, on ne voit plus de mauvais choix. Et la Bible dit qu'Abraham mourra après une heureuse vieillesse. Il va vivre encore, hein. Il n'est pas encore mort, il va vivre encore pas mal de temps. Mais c'est quand même extraordinaire ce qui s'est passé. À ce moment-là, c'est là que Dieu voulait l'amener. Il a peut-être fallu 40 ans pour cela, pour être au rendez-vous. Je conclus, et c'est peut-être certainement pour ça que les rapports du Nouveau Testament ne sont que positifs. Parce que vous avez compris avec moi qu'il n'est pas blanc sous toutes les coutures. Hein. Il y a eu des tas d'erreurs, il y a eu des tas de mauvaises choses, mais Dieu oublie. Bien-aimé, la bonne nouvelle ce matin, c'est que Dieu oubliera nos tendérances, il oubliera nos doutes, il oubliera nos colères, Il oubliera nos disputes, il oubliera nos difficultés, il oubliera tout ce qui a fait de nous un homme charnel, une femme charnelle. Il oubliera tout ce qui a fait de nous un petit chrétien, si misérable, n'ayant pas la foi, n'ayant pas été à la hauteur de ce que les autres attendaient de nous, etc. etc. Il va balayer toutes ces choses-là. Parce que la volonté de Dieu, c'est justement de fortifier ses enfants. Alors j'ai noté ces deux versets que vous avez à l'écran, et c'est certainement pour ça que les rapports sont si bons. Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés, qui oublie les péchés. Et enfin, Habacuc, je veux me réjouir en l'Éternel. Ce matin, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. Amen. Est-ce que je peux vous relire, au regard de tout ce qu'on a vu, ce que l'apôtre Paul disait de la part de Dieu, ce que l'apôtre Paul nous disait de la part de Dieu, malgré, parce que Dieu n'a rien caché dans l'Ancien Testament, on a la réalité de l'histoire, telle que humainement elle s'est passée, et dans le Nouveau Testament, vous avez la réalité de l'histoire telle que Dieu la voit aujourd'hui. Et ce qui compte, c'est comment Dieu nous voit aujourd'hui. Là où toute espérance paraissait insensée, et mettez votre nom derrière cela, là où toute espérance paraissait insensée, il a espéré et s'est cramponné avec foi à cette promesse. Nombreuse sera ta descendance. Ainsi, il est devenu le père d'une multitude de peuples. Naturellement, il savait qu'étant presque centenaire, son corps n'avait plus le pouvoir de procréer. Il savait aussi que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, mais toutes ces considérations ne l'ont pas fait vaciller dans sa foi. S'appuyant sur la promesse divine, il ne succomba pas au doute. Puisant sa force dans la foi, il fit honneur à Dieu, étant pleinement persuadé que Dieu est capable de tenir parole et d'accomplir ce qu'il a promis. C'est précisément cette attitude qui lui attira la bienveillance divine et lui valut d'être déclaré juste. Amen. Que la vision de Dieu soit à l'épreuve de notre vue et que la vision l'emporte et qu'ainsi Dieu puisse se glorifier encore dans nos vies. Amen. Se lève ensemble et on invoque son nom. Alléluia. Alléluia Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous venons devant toi avec beaucoup d'humilité ce matin. Nous venons devant toi avec beaucoup de joie. Nous venons devant toi avec beaucoup d'espoir parce que tu as fait des promesses. Tous ensemble, nous qui sommes réunis ce matin, nous sommes venus proclamer la fidélité de Dieu à notre égard. Nous sommes venus dire qu'à la croix, tu avais pardonné nos fautes et tu nous avais sauvés pour l'éternité et que nous avons une place là-haut dans le ciel avec toi. Tout cela nous réjouit. Maintenant, nous voulons te demander ta grâce parce que comme le rapport est si parfait concernant Abraham et Sarah, nous aimerions que ce soit ça qui soit retenu dans notre parcours avec toi, que ce soit ça qui puisse être retenu et que notre cœur soit encouragé parce qu'avec toi, nous ne serons jamais déçus. Merci pour ta fidélité, merci pour ta bienveillance, merci de nous accompagner lorsque il nous arrive de traverser la vallée de l'ombre de la mort. Tu as dit que nous ne craindrions aucun mal, tu serais toujours avec nous. Merci pour les lieux élevés. Merci parce que tu as élevé nos pieds ainsi. Et nous voulons dire comme Habacuc, je me réjouirai en l'Éternel. Je me réjouirai en l'Éternel. Merci de ces moments. Merci de ta parole qui nous fortifie, nous encourage. Jamais nous ne laisserons tomber tes promesses à terre. Jamais nous ne laisserons tomber ta parole à terre. Mais nous voulons qu'elle nourrisse encore nos cœurs et nos vies. Raccompagne-nous dans ta paix. Bénis le temps d'évangélisation tout à l'heure, je t'en prie. Fais-nous du bien. Que ta parole triomphe encore cet après-midi de tout obstacle, de toute incrédulité et qu'il se fasse des prodiges et des miracles pour la gloire de ton nom. Merci de bénir la semaine qui est devant chacun de nous. À toi l'honneur et la louange. Amen.